d'obéir à un commandement du Seigneur et de nous rendre dans une école prophétique à Toulouse pendant 3 mois, nous mettre à part pour le Seigneur, chercher sa volonté pour notre vie dans une école prophétique donc, qui s'appelle Melchisedec. Et donc nous avons mis entre parenthèses nos vies professionnelles et puis les filles ont aussi changé d'école. Pendant 3 mois, nous avons été Toulousains. Et il s'est passé énormément de choses. Et puis, j'ai ce souvenir d'un moment très particulier. Pendant une des semaines, il y a la responsable. Donc, c'est dans une grande église à Toulouse, qui s'appelle l'Assemblée chrétienne de Toulouse. Dans cette grande église, il y a une dame qui s'occupe une amie que nous aimons beaucoup, qui s'occupe des enfants. Et elle nous avait demandé, elle nous a dit, est-ce qu'on fait un week-end juste avec des enfants, des ados? Est-ce que vous voulez bien faire la louange pendant ce temps, parce qu'elle savait que je conduisais la louange aussi, et qu'on avait à cœur la jeune génération. Donc elle nous a demandé de faire ça le samedi soir qui allait venir, et évidemment on était très heureux de pouvoir faire ça, et j'ai vraiment tout de suite senti que c'était la chose que le Seigneur nous demandait de faire. Puis même pendant le temps qui a précédé, dans mes temps de prière personnelle, le Seigneur m'a dit, prends aussi avec toi tes 2 filles, pour les mettre sur l'estrade pour chanter avec toi. Donc c'était la première fois qu'elles chantaient avec moi. Moi, je conduisais la louange et puis elles étaient à mes côtés pour chanter. C'était vraiment une chouette semaine. Et puis vient le vendredi soir, tout bien. Je suis vraiment dans la prière, dans la paix. Mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose d'important qui était en train de se jouer, mais sans forcément savoir exactement quoi. Mais mes temps de prière étaient très intenses à ce moment-là. Le lendemain, c'est le samedi et, qui arrive. Et puis, on s'occupe de déménager quelqu'un. Et puis, on le fait. Et puis, au bout d'un moment, il y a des gens qui viennent nous voir, des amis, et puis qui nous disent « Mais vous n'avez pas entendu les actualités ?» Alors, on a dit « Bah non ». Et donc, à ce moment-là, c'est là que nous apprenons que la veille au soir, le vendredi, il y avait eu les attentats de Paris. Le genre d'événement, on se rappelle un peu tous ce qu'on faisait à ce moment-là quand on a appris ce qui se passait à Paris. Donc, ces terroristes qui avaient pris des kalachnikovs pour tirer sur les gens dans la rue, au Bataclan. Voilà, vous vous rappelez tous, bien sûr, c'était un moment assez terrible. Et donc, dans cette journée du samedi, stupeur. On regarde les actualités à la télévision et puis on se dit mais qu'est-ce qui se passe sur notre nation? L'église dans laquelle nous sommes mobilise, elle fait un appel à la prière pendant toute l'après-midi, on vient, puis il y a une atmosphère terrible. On se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre pays? Et comme une noirceur qui d'un seul coup nous envahit, on se dit mais c'est pas possible que de telles choses arrivent, plusieurs... Enfin, c'était des morts en centaines, hein, vous vous souvenez, c'était vraiment terrible. Et donc le soir même, nous devions faire cette soirée de louange avec des ados. Et il y a une forme de peur qui est venue sur moi. Je me suis dit, mais quel est le sens que j'aille faire? Enfin, je ne me sentais pas du tout en capacité d'aller faire de la louange avec les ados. Ça paraissait sur le moment presque saugrenu. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alors, on est arrivé dans ce moment-là, et puis j'ai dit, bon, ben, on est là pour ça. Je voyais bien que les enfants, ils le savaient. Alors, j'ai dit, mince, qu'est-ce que je fais? Je leur en parle. Mais je sais qu'ils sont capables de comprendre, je ne vais pas faire semblant. Et puis, on a commencé à adorer le Seigneur. Et là, l'Esprit-Saint est tombé dans la pièce d'une manière absolument incroyable parmi ces ados. Les ados se sont mis à se prendre dans les bras, ils se sont mis à pleurer, à dire « Nous, on veut Jésus, nous, on veut tout donner pour Jésus. » Nous, ils disaient même, c'est incroyable, nous, on est la réponse. Ma fille Naïs a pris le micro et a commencé à prophétiser au micro. Elle avait, quel âge tu avais en 2015 ? 8 ans, c'est ça ? Elle se met à prophétiser au micro, à sa génération, à propos de l'amour de Jésus. Il s'est passé un truc complètement incroyable. Et à ce moment-là, Dieu m'a rappelé quelque chose et il m'a dit, souviens-toi, les ténèbres vont commencer à grandir, vont continuer de grandir, Mais ma réponse, c'est cette jeune génération sur laquelle je mets mon Esprit Saint. Et ce n'était pas nouveau pour moi, parce que c'est quelque chose qu'il m'avait déjà dit de nombreuses années auparavant, mais j'ai compris que la réponse que Dieu voulait donner, c'était une jeune génération remplie de l'amour pour Jésus, qui allait briller comme une lumière au milieu des ténèbres de notre nation. Et je voudrais vous parler de ça ce matin, au travers de ce passage qui parle des Naziréens. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais on va l'apprendre ensemble. Et nous voyons les Naziréens, qui sont des gens particuliers, qui ont quelque chose de spécial. Et nous allons voir ça en lisant le chapitre 6 du livre des Nombres, si vous voulez ouvrir votre Bible. Nombres, chapitre 6, nous allons lire les versets 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau des raisins. Pendant tout le temps de son Naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Naziréat, il sera consacré à l'Éternel. » Nous avons ici la description de ce qu'on appelle le vœu de Naziréat, c'est-à-dire un vœu volontaire de se mettre à part pour le Seigneur. Et Nazir, alors est-ce qu'il y avait bien écrit Naziréat, je ne sais plus. Oui, Naziréat. Donc le mot Naziréat vient du mot hébreu Nazir, qui veut dire consécration. Et Nézer, donc, est le nom, l'adjectif qui veut dire consacré. Alors ce qui est intéressant, il y a plein de choses intéressantes dans ce passage, je vais essayer de ne pas trop en dire parce que ce n'est pas forcément l'objet, mais je veux bien qu'on comprenne. Nazer veut dire consacré, mais ça veut dire aussi couronne. Par exemple, dans le psaume 132, versets 16 à 18, il est dit « Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, à Jésus donc. » Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne, Nézer. Consécration, la consécration, c'est la couronne de Jésus. La consécration de nos vies, les choix que nous faisons de nous mettre à part pour Dieu, sont comme une couronne sur la tête de Jésus. C'est ça que nous dit ce passage. Je ne vais pas creuser forcément les trois domaines dans lesquels le vœu de Naziréat touche. C'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais survoler, mais il est parlé donc d'abstinence par rapport au vin et au raisin. C'est la première chose. Qui représente en fait le renoncement volontaire à des plaisirs légitimes. C'est un peu comme le jeûne, si vous voulez. C'est-à-dire que volontairement, le vin et le raisin et le vinaigre, c'était des choses de tous les jours, légitimes, ce n'était pas interdit par la loi, mais volontairement, je me mettais à part de ces choses. Ensuite, ils ne se coupaient pas les cheveux. Le rasoir ne passait pas sur leur tête, ils laissaient pousser leurs cheveux autant, tout le temps du Naziréat qu'ils avaient choisi. Donc s'ils avaient choisi de se consacrer au Seigneur pendant 2 ans, ils laissaient pousser leurs cheveux, ils ne coupaient pas leurs cheveux pendant tout ce temps-là. C'était le signe extérieur, donc les autres le voyaient du coup, c'était le signe extérieur de leur consécration intérieure. Et puis, ils n'avaient pas de contact avec la mort. Alors, c'est très intéressant aussi parce qu'il est dit que les personnes qui se consacraient étaient saintes. Saintes, kadosh, en hébreu, mis à part. Ils appartenaient à l'Éternel pendant ce temps. Ils se donnaient à lui. Donc, le naziréen choisissait en fait la durée de son naziréat, de son vœu, de sa mise à part. Mais la Bible nous donne l'exemple de trois personnages qui ont été consacrés comme ça, à vie, dès avant leur naissance. Est-ce que quelqu'un saurait de qui il s'agit ? Sarah, vas-y. Samson, ouais, bravo, ce n'était pas le plus facile à trouver. Jean-Baptiste, je l'ai entendu. Et le troisième ? Samuel, wow, vous êtes trop fort. Vous pouvez vous applaudir, bravo. Bravo, bravo. Les trois naziréens à vie qui sont cités dans la parole de Dieu, Samson, Samuel et Jean-Baptiste. Et ils ont beaucoup à nous apprendre sur ce qu'est la consécration au Seigneur et sur ce qu'elle produit. Samson, donc, était consacré à vie. Un ange est venu voir ses parents pour leur dire « Vous me consacrerez cet enfant ». Sa mère était stérile. Qu'est-ce qu'on se rappelle de Samson ? Sa force ! Il a vaincu 1000 hommes à lui tout seul, avec une épée, une hache, non, avec une mâchoire d'âne. Incroyable. C'était une sorte de super-héros surpuissant. Et on se rappelle autre chose. D'où lui venait sa force ? De sa chevelure. C'était pas de sa chevelure que lui venait sa force. C'était de sa consécration. Il avait les cheveux longs parce que le rasoir ne passait pas sur sa tête. Il ne s'était jamais coupé les cheveux. Il était consacré à vie. Il avait une longue tresse. Et il a perdu à un moment donné. Vous savez qu'il a expliqué, il a été séduit et il a expliqué, on lui a rasé la tête, il a perdu sa force. Sa force à Samson, c'était sa consécration. Et il l'a retrouvé à la fin, vous vous rappelez, puisque ses cheveux avaient fini par repousser. Et il a fait s'écrouler les colonnes du temple dans lequel il se trouvait et a vaincu ses ennemis de cette manière-là. La puissance de la consécration, c'est la première chose que ça nous apprend. Les consacrés sont puissants dans le Seigneur. Le deuxième, c'est Samuel. L'histoire de Samson, c'est dans Juges 13 à 16, c'est pour ceux qui voudraient. Et puis, Samson est cité parmi les héros de la foi, dans Hébreux. Samuel, donc, Samuel, cet adolescent qui servait dans le temple et qui entendait la voix de Dieu. Il avait votre âge, il entendait la voix de Dieu. Et Dieu lui disait plein de secrets. À une époque où la parole de Dieu était rare, où la prophétie était rare. Il a fait de lui le plus grand prophète de son histoire. Il a changé tout le cours de l'histoire d'Israël. Il a conduit lui-même le peuple d'Israël pendant un temps. Il a oint deux rois, un homme extraordinaire qui avait la capacité d'entendre la voix de Dieu. La consécration est aussi une intimité telle que Dieu va commencer à parler au travers de cette personne consacrée, de ce naziréen, de cette personne qui choisit de se mettre à part pour le Seigneur. Il était enfant, fils de prêtre, revêtu de l'éphod, il servait dans le temple. Sa mère, Anne, était stérile. Vous vous souvenez de cette histoire ? 1 Samuel 1, sa maman était stérile. Elle a prié, elle a supplié le Seigneur. Elle était triste, elle voulait un enfant, et elle a fait un vœu, elle a dit « Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. » Et donc Samuel a été consacré par sa mère, et il est devenu un homme qui a tout changé pour l'histoire d'Israël. Il est même dit que Dieu ne laissait pas la parole prophétique de Samuel tomber à terre. Chaque fois que Samuel prophétisait quelque chose, ça se produisait. Incroyable. Et le troisième, Jean-Baptiste, que nous voyons dans le Nouveau Testament, il était aussi d'une lignée de prêtres et sa mère était stérile. Il est dit de lui qu'il était revêtu de l'esprit d'Élie. pour préparer la venue du Seigneur. Élie, vous savez, c'est plein de choses, je n'ai pas le temps de creuser ce matin, mais vous connaissez Élie. Élie, c'est la confrontation de l'idolâtrie. Le peuple qui se tourne vers des idoles et Élie qui veut que le peuple d'Israël revienne à Dieu et abandonne les prophètes, le culte de Baal et qui les confronte. Jean-Baptiste était comme Élie et il a appelé le peuple qui était décadent à revenir à la repentance et à revenir au Seigneur. Il est aussi dit de Jean-Baptiste qu'il ramènerait le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Jean-Baptiste portait dans son onction la réconciliation des générations. Et Jean-Baptiste a été le premier à reconnaître Jésus comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a même eu l'honneur de baptiser Jésus. Vous voyez ces personnages, à quel point ils étaient spéciaux, à quel point Dieu avait choisi de dire, quand il y a un temps de décadence, de déclin, moi je fais me lever des hommes, des femmes, des jeunes gens, des ados, pour être ma réponse. Et vous commencez peut-être à comprendre le lien avec ce que je vous ai raconté à propos des attentats de Paris. Dieu ne reste pas sans réponse face à la décadence, face au déclin du monde spirituel et moral. Dieu a une réponse. Et cette réponse, ce sont les Naziréens. Ce sont ces jeunes gens qui choisissent Jésus, qui se mettent à part, qui disent nous, on va être sans compromis, on ne va pas faire la même chose que ce monde. Nous, on va choisir Jésus radicalement. Et bien sûr, Jésus lui-même est le parfait Naziréen. C'est lui qui réunit toutes ses caractéristiques en une seule personne. Lui aussi a été enfanté miraculeusement d'une vierge. Et je crois qu'au milieu de la stérilité que parfois nous pouvons ressentir en tant qu'Église, moi je le ressens aussi, des fois je me dis, mais est-ce que nous portons du fruit ou est-ce que nous nous sentons stériles? Au milieu de notre stérilité, Dieu vient guérir notre stérilité et fait jaillir quelque chose de nouveau. Pour chacun de ces personnages, chaque fois la situation était catastrophique autour d'eux. Quand Samson est paru, le peuple d'Israël était sous la domination des Philistins. Quand Samuel est paru, le déclin spirituel était énorme au point que Élie, le souverain sacrificateur, alors c'est Élie sans eux, c'est l'autre Élie, celui qui n'a pas fait ce qu'il fallait, il négligeait le service de la présence de Dieu, ses fils déshonoraient la présence de Dieu. Et il est dit que la parole prophétique était rare, donc c'était un temps vraiment où il ne se passait pas grand-chose. Il y avait une forme de déclin. Et puis Jean-Baptiste est paru après ces 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Jean-Baptiste arrive et dit « c'est le temps ». Et je crois que Dieu est en train de faire la même chose. Ici et maintenant, dans la nation de France, et de faire se lever non pas une seule personne, mais une génération qu'il se choisit pour venir briller, changer, secouer, peut-être, l'Église assoupie, faire bouger les choses, et c'est déjà en train de se produire. Et c'est ça que je voudrais vous partager ce matin. Ces ados en font partie, il y en a d'autres bien sûr, mais vous êtes une réponse de Dieu au déclin de ce monde. C'est aussi sur vous que son esprit va reposer pour changer les choses. Et le secret de tout ça, si on peut dire, c'est la consécration de vos cœurs à Jésus. C'est de dire, ok, moi, je fais ce choix. De dire, je veux faire ce que Jésus me demande et pas ce que le monde me demande. Et je suis impressionné parce que c'est déjà en train, ils le vivent. ils le savent peut-être pas, ou ils s'en rendent peut-être pas toujours compte, mais ils le vivent. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé relativement récemment. Je vais parler de Naïs. Je peux parler de toi ? Ouais, ça va ? Il y a quelques semaines, il y a une copine à elle qui l'a invitée à la maison. Pour une après-midi, c'était son anniversaire, je pense, pour Flora, c'était son anniversaire. Oui, c'est ça. Et puis, elle avait invité d'autres copines que Naïs ne connaissait pas. Et puis, elle lui avait dit, ben, on va dormir tous ensemble dans une tente. C'était ça, dans une tente. Le soir, et puis on va passer l'après-midi ensemble, on va bien s'amuser. Et Naïs n'a pas voulu, elle a voulu passer l'après-midi avec sa copine, mais elle n'a pas voulu dormir dans la tente avec les autres. Vous savez ce qu'elle a dit ? Elle a dit, moi, je ne veux pas dormir avec des gens que je ne connais pas. Eh bien, je peux vous dire que ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné. Parce qu'elle a, elle a pas réfléchi de cette manière-là. Là, c'est moi qui vais le dire. Mais quelque part, au fond d'elle, il y a quelque chose qui s'est allumé, qui dit, c'est pas tout à fait normal de faire comme ça. Avec des gens que je connais pas. Peut-être qu'il y a des garçons, peut-être que... Il y avait des garçons, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous commencez à comprendre ? Vous me suivez ? Ouais ? Et je pense que Dieu a déjà mis un dépôt de consécration dans cette jeune génération, et nous allons le voir de plus en plus. Et vous savez que ce n'est pas nouveau en réalité, ça s'est déjà produit en Afrique, en Europe, en Asie, loin de chez nous, pas du tout, ça s'est produit en France. Il y a quelques siècles, c'est passé quelque chose en France, un héritage aujourd'hui qui est un héritage prophétique tellement important. Les Huguenots, ça vous dit quelque chose ? Une époque où il y avait des guerres de religion, en France, un déchirement terrible, un temps sombre, vraiment, un temps de ténèbres. Les responsables du peuple protestant ont été obligés de quitter la France. Les pasteurs, les notables ont tous quitté la France. Ils ont été chassés, en fait, de France. Ils se sont réfugiés dans plein d'endroits qui, aujourd'hui, sont des endroits qui ont hérité et bénéficié des Huguenots. Les États-Unis, par exemple, sont un pays chrétien parce que les Huguenots français sont partis et ont été vraiment des témoins aussi de la puissance de Dieu là où ils étaient. Mais la France s'est retrouvée orpheline. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a commencé à parler au travers des enfants. Les enfants se sont mis à prophétiser. Ils étaient tellement remplis de l'esprit que certains d'entre eux, qui marchaient à peine, étaient en capacité de prophétiser en bon français, alors qu'ils ne parlaient que le patois. Vous savez qu'à cette époque-là, tout le monde ne parlait pas français, on parlait la langue de sa région. Mais en bon français, ils se mettaient à prophétiser, à parler de la part du Seigneur, à dire au peuple, repentez-vous, retournez à l'Éternel. Ils disaient des choses comme ça, ils ne disaient pas les petits oiseaux vont chanter, ils disaient des choses vraiment puissantes. Et Dieu a permis que le peuple français ne soit pas orphelin en donnant son esprit à des enfants. Une grande puissance s'est déversée en France. Et nous avons cet héritage-là, prophétique, je le redis. C'est ce qu'on a appelé le temps des enfants prophètes. Un temps très court, mais qui a impacté tellement. Certains d'entre eux ont fini en prison, des enfants. Mais gloire à Dieu, ils étaient forts, parce qu'ils étaient soutenus par l'Esprit de Dieu. Si vous, c'est un sujet qui vous intéresse, ça je pourrais vous en parler des heures, mais je vous invite à lire un livre qui s'appelle « Le théâtre sacré des Cévennes » et qui est un rassemblement des témoignages de ce que disaient les Huguenots en général, mais les enfants aussi en particulier. Dieu est en train de préparer une jeune génération pour renverser le déclin moral et spirituel de notre société. C'est la révolution Jésus qui est en marche. Et c'est quelque chose qui se produit partout dans le monde. Des enfants qui se lèvent et qui disent, nous, pour nous, ça suffit. Ça suffit. On veut aujourd'hui vivre pour Jésus sans compromis. Halte au compromis. Ce n'est pas une révolution de destruction, c'est une révolution d'amour et de prière. C'est un amour délibéré, total, entier, sans compromis, qui se manifeste par un style de vie, par une consécration de leur vie, par des choix qu'ils font. J'ai envie de vous dire, les ados, ne perdez pas de temps. Je sais que plein de choses viennent pour essayer de vous détourner de ce que vous avez à vivre avec Jésus. Vous avez pas vraiment le temps. Vous aurez des temps pour faire d'autres choses. Mais par exemple, ne perdez pas trop de temps à parler de tel garçon, de telle fille. Gagnez du temps, parce que de toute façon, vous êtes trop jeune. Voilà. Il y aura un temps pour ça. Vous aurez le temps. Vous avez le temps. Occupez-vous de votre consécration au Seigneur. Occupez-vous de chercher Dieu dans votre cœur. Écoutez ce qu'il vous dit. Et chaque fois qu'il vous dira quelque chose, notez-le et puis dites-le. Je vais le faire au nom de l'Église. Mais nous, on est prêts à accueillir ce que Dieu vous dit et à écouter et à entendre ce que Dieu vous dira. Vous êtes important pour nous. Vous êtes important au milieu de nous. Vous avez des choses à faire, à vivre. Et nous, on veut vous aider. On veut vous encourager. On veut vous soutenir, vous sécuriser. Soyez ces lumières pour Jésus. N'hésitez plus. Soyez forts. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Faites des choix radicaux. Ne vous laissez pas compromettre. Vous êtes tellement important. Vous êtes une réponse de Dieu à cette génération, aux hommes et aux femmes de notre temps. Et on sera là pour vous aider. Vous inquiétez pas. Chaque période critique appelle une réponse. Et la réponse de Dieu à un monde qui sombre, c'est de susciter des Naziréens pour réveiller le peuple de Dieu assoupi et pour un grand impact dans le monde. La réponse de Dieu aux ténèbres qui envahissent ce monde, c'est une génération de Naziréens remplis d'amour radical et d'obéissance illimitée à la parole de Dieu, qui vont lutter dans la prière et dans leur style de vie, à contre-courant du monde. Alors, je sais aussi que quand je dis ça, on se dit, mais nous alors, qui sommes autour d'eux? C'est très important, parce que nous avons tous notre part à jouer dans ce qui est en train de se vivre. Il faut des ânes pour enfanter des Samuel. Et les Samuel de notre temps ont besoin des ânes qui vont prier, qui vont supplier que Dieu mette un terme à la stérilité et qu'il soit fertile en puissance. On veut voir des guérisons, n'est-ce pas ? On veut voir des miracles, on veut voir des vies changées, transformées. Alors, on doit aussi prier et supplier le Seigneur pour que cette jeune génération porte en elle tellement de puissance que nous verrons ces choses, que nous ne soyons pas, surtout pas des obstacles, surtout pas, mais que nous soyons des encouragements. Et ça s'adresse à nous, à Angers, ici et maintenant. Nous avons des ados comme ça au milieu de nous. Alors, Chantal, que je veux remercier, m'avait redonné une prophétie que j'avais donnée ici même, en 2009. Ça date un peu. Hein, je ne m'en souvenais pas du tout. Et alors, c'est marrant comme elle résonne aujourd'hui. J'avais dit ceci dans ce même endroit, alors qu'on ne savait pas du tout qu'on viendrait être membre de cette église un jour. C'est le Seigneur, hein. Alors, vous voulez savoir ce qu'elle disait, cette prophétie ? Église d'Angers, écoute ma voix. Comme Anne, je me glorifierai au travers de toi. Comme Anne, je ferai jaillir de toi des louanges. Car comme Anne, tu es dans la souffrance de la stérilité. Comme Anne, tu soupires après un fruit pour tes entrailles. Pleure et soupire après ton Dieu. Comme Anne, ne relâche pas ta prière. Comme elle, fais vœu de consacrer à l'Éternel ces Naziréens qu'il t'accordera par grâce. Car comme Anne, comme j'ai aimé Anne d'une double part, je t'aime d'une double part. J'entendrai ta prière et je te bénirai. Comme Dan est sorti Samuel, qui m'était consacré et qui a oint le roi, je susciterai au travers de toi une génération consacrée à l'Éternel qui oindra le roi des rois. Oui, cette génération, tu me la consacreras afin qu'elle accomplisse mes desseins, afin qu'elle soit lumière au milieu des ténèbres. C'était pour l'église d'Angers en général. Oui, c'était pour toutes les églises d'Angers, absolument. Aujourd'hui, cette nouvelle génération prophétique désire ardemment la réalité de la présence de Dieu. Je vous assure, on ne leur vend pas de la soupe à ces ados. Pour eux, il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit concret, il faut que ce soit véritable. Et ils ont un ardent désir. Ils ne veulent pas de la religion, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas évoluer dans un contexte qui va étouffer leur vision ou ce qu'ils reçoivent. Alors ce matin, je suis un peu comme le semeur, je sème quelque chose, mais c'est à chacun de nous d'être une terre ou pas, voyez avec le Seigneur pour recevoir ces paroles-là. Comme dans tous les mouvements de Dieu, nous qui sommes autour d'eux, nous avons un rôle à jouer. Plusieurs attitudes possibles. Est-ce que nous allons être comme Anne ? Oui, je consacre cette jeune génération à l'Éternel. Oui, je veux qu'ils servent le Seigneur. Oui, je veux qu'ils soient prophètes. Oui, j'accueille ce que Dieu fait au milieu d'eux. Je pleure, je supplie pour eux. Je suis à leur côté. Je suis un parent spirituel. Je les encourage dans ce qu'ils vivent avec le Seigneur. Je peux regarder ce qui se passe et dire, ben, on verra bien. Si Dieu fait quelque chose, il le fera. On peut regarder les choses passivement, compter les points, regarder les ados, dire « Ah, celui-là, il a fait une bêtise. Ah, celui-là fait quelque chose de bien. » Ça, c'est la deuxième attitude. Puis il y a la troisième attitude, c'est l'attitude du sacrificateur Élie. Aveugle. Et quand Samuel vient le voir pour lui dire « Tu m'as appelé ?» Donc il avait entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit ? Retourne te coucher. Tu m'embêtes. Laisse-moi dormir. Jusqu'à ce qu'au bout de la quatrième fois, ils disent, oula, il doit se passer un truc. Bon, d'accord, tu vas dire. Mais le jugement de Dieu a été terrible sur Élie. Parce qu'il avait eu une négligence énorme avec les choses que Dieu voulait, que Dieu désirait. Est-ce qu'on va dire aux enfants, quand ils reçoivent des paroles prophétiques, est-ce qu'on va lui dire, ouais, c'est bon, retourne te coucher. C'est une vraie question hein, que le Seigneur nous pose. Et on a le choix. Vous pouvez, j'allais dire, vous êtes libre. Hein, vous êtes libre d'entendre ou pas. Hein. Mais je crois vraiment que ça... Ben, je vais demander au Saint-Esprit, je demande au Saint-Esprit que maintenant, dans cet instant, il vous convainque de quelque chose, de votre rôle à jouer, de notre rôle à jouer. Je l'ai dit, il y a une onction aussi de réconciliation des générations qui est là. Et ça, c'est très important au milieu de nous. Vous savez, quand j'avais ce message à cœur ce matin, j'avais un peu peur. Parce que ce n'est pas simple ce que je vous dis ce matin, j'en suis bien conscient. Et je suis tout le temps là en train de dire au Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux que je dise ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Je n'ai pas arrêté hein, de dire ça au Seigneur. Parce que je veux vraiment dire ce que Dieu dit, je ne veux pas dire autre chose. Et puis j'ai vu la petite Laura venir faire un câlin à André tout à l'heure. Je ne sais pas combien il y a d'écart entre les deux, hein, je ne le dis pas. Mais j'ai vu ça comme un signe, où le Seigneur disait oui, moi ce que je veux que vous viviez, c'est aussi la réconciliation des générations. Je veux que les générations au milieu de vous, elles se bénissent les unes les autres. Je vais le dire, mais moi je n'ai pas vécu ça toute ma vie. Et ça m'attriste quand je vois des générations qui ne bénissent pas la suivante. Ça m'attriste quand la suivante ne bénit pas la précédente. Nous sommes des héritiers des anciens, nous qui sommes plus jeunes. Ces jeunes sont aussi héritiers de ce qu'on va leur donner, même s'ils reçoivent des choses particulières. Nous sommes comme un terreau pour eux. Et moi, j'ai envie de leur laisser un bel héritage. J'ai envie qu'ils sachent qu'ils sont importants, qu'ils ont une destinée dans le plan de Dieu et qu'ils rentrent dedans. J'ai envie qu'ils sachent qu'on prie pour eux, qu'on est là aussi pour les sécuriser, pour les protéger quand il faudra, pour les conseiller quand il y aura des choses difficiles, pour les amener vers le Seigneur. Et je ne veux pas être un obstacle, et je me rappelle que, je l'ai déjà dit je crois, mais quand mes filles voulaient se faire baptiser, et elles étaient toutes jeunes, hein, elles avaient 10 ans quand elles ont demandé le baptême, elles avaient 11 ans quand elles se sont faites baptiser, j'étais un peu en panique. Mais ce qui a fini par me convaincre de leur permettre d'aller se faire baptiser, c'est que Dieu me disait, mais ne sois pas un obstacle entre moi et ce que vivent tes enfants. Sois une source d'encouragement. Et sois là, parce qu'elles auront besoin de toi, elles auront besoin de ta bénédiction, elles auront besoin que tu les conseilles, elles auront besoin que tu leur dises que ce qu'elles vivent avec Dieu, c'est vrai, c'est bon, c'est important. Elles ont besoin que tu sois là. Donc ne sois pas un obstacle, sois une source d'encouragement pour elles. Et même si tu as peur, et même si tu ne comprends pas tout ce qu'elles vivent, et même si tu dis, est-ce que je fais le bon choix, fais-moi confiance et sois là pour elles. Peut-être qu'à un moment donné, elles auront des doutes. Peut-être qu'à un moment donné, ben, tu seras là. Et je crois que c'est ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être des ânes. Les Samuel ont besoin de ânes. Les Samuel ont besoin de chacun de nous. Ils ont besoin de pères, de mères, de grand-mères, de grands-pères spirituels. Est-ce que ça vous... Moi, je suis très attristé par une chose. Et je la dénonce, parce qu'il faut dénoncer les choses. Mais il y a eu un esprit, à un moment donné, je pense que c'est lié à mai 68, normalement, qui a brisé la chaîne de transmission. Et moi, je me sens tellement orphelin. Je fais partie de ce qu'on appelle la génération X, c'est-à-dire ceux qu'on a oubliés. Voilà. Ceux qui sont entre deux, ceux qui n'ont pas d'appel particulier. J'ai eu très peu de mentors. J'ai toute ma vie cherché des mentors, des pères, des gens qui voulaient me transmettre ce qu'ils savaient. Et j'en ai pas trouvé beaucoup. Maintenant, un peu plus, heureusement, gloire à Dieu. Bernard en fait partie, de mes mentors. C'est tellement important. C'est primordial, la transmission. Et aujourd'hui, où nous sommes dans des temps de changement, où nous sommes dans des temps où on va être secoué, où des naziréens vont se lever, quelle est ta posture là-dedans ? Est-ce que tu es prêt à transmettre ? Et si tu marches avec le Seigneur depuis de nombreuses années, tu as beaucoup de choses à transmettre à la génération d'après. Et ceux qui sont après, tu as beaucoup à apprendre des générations qui sont passées avant toi. Tu n'es pas la génération spontanée, comme on dit. Hein ? Alors réconcilions-nous aussi. Amen ? Et je crois, juste pour conclure, que un chemin est en train d'être frayé par l'Esprit Saint. Nous sommes appelés et nous devons vraiment chérir ce que Dieu nous dit. C'est aussi de cette façon que nous sortirons de la stérilité et que nous irons vers les œuvres de puissance que nous réclamons. Anne est passée pour une ivre, vous vous rappelez de ça ? C'est-à-dire que le sacrificateur Élie, quand il voyait Anne prier, elle priait tellement fort qu'il croyait qu'elle était bourrée. Va cuver ton vin ailleurs, il lui disait. Sympa. Alors est-ce qu'on a peur de passer pour des ivres devant ceux qui sont aveuglés, qui n'ont pas vu les choses que Dieu a données ? Il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut pas qu'on ait peur de l'intensité, de la force de notre intercession, de notre prière, de notre désir de consécration. N'ayons pas peur de ce que dira le monde. Anne était prête à aller au bout, quitte à passer pour une personne ivre. Et soutenons par la prière cette jeune génération de Naziréens. Soutenons-les, prions pour eux, ils en ont besoin. Prions pour eux, ils en ont besoin. Non, vous n'avez pas entendu. Prions pour eux. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de nos prières. Ils sont dans un combat comme nous n'avons même pas connu. Mes amis, il faut se réveiller. Vous savez ce qu'ils entendent au collège ou au primaire. Vous savez à quoi ils sont confrontés, si jeunes. Ils ont besoin qu'on prie pour eux, pour qu'ils tiennent bon, pour qu'ils ne se laissent pas avoir, pour qu'ils ne tombent pas dans ces pièges d'homosexualité, de pornographie précoce, de drogue en tout genre. C'est tellement tôt, Seigneur. Il n'y a même plus de havre de paix aujourd'hui. La violence. Seigneur, s'il n'y a pas nos prières, ils ont besoin de nous. Engagez-vous. Et je sens aussi que le Seigneur nous demande de nous engager envers cette jeune génération. Il demande à cette jeune génération de s'engager. Et on en reparlera cette année. Avec à ceux qui viendront à Génération Consacrée, je vous invite à tous venir, les ados, on en parlera. Mais je crois aussi que Dieu nous demande un engagement en tant que personnel, et puis peut-être en tant qu'Église aussi, d'être là, de dire « moi, je vais m'engager à prier pour eux, parce qu'ils en ont besoin ». La prière des parents, la première, bien sûr. La prière des parents pour leurs enfants. Mais nos prières à nous tous, nous avons tous un rôle à jouer là-dedans. Nous devons prendre position résolument. Merci à ceux qui le font déjà, parce que je sais qu'il y en a qui le font, même depuis des années, à prier, à intercéder, à être des pionniers, à voir cette jeune génération et à prier pour que le chemin soit ouvert. Continuez, continuez. Et ce matin, si vous le sentez comme ça, je vais juste conclure par la prière, mais essayez de demander au Seigneur ce qu'il vous demande à vous. Je sais que ce n'est pas facile. Ce que je dis ce matin. Peut-être que certains parmi vous se disent, moi, par exemple, mes enfants, c'est compliqué, par exemple. Et je sais que c'est un combat. Quand on rentre sur un champ de bataille, on ne rentre pas en disant, ouais, tout va bien se passer. C'est forcément un peu. Ça nous demande quelque chose, ça nous demande un effort. Tiens, Jean-Didier avait prêché sur le fait de faire des efforts. On a besoin des fois de faire un pas en avant. Et je voudrais vous demander. Simplement de demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il vous demande à vous. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, qu'est-ce qu'il vous demande à vous par rapport à ce réveil des Naziréens qui arrive? Où allez-vous être situé? Et puis les ados, pendant qu'on va prier comme ça, demandez aussi à Jésus ce qu'il veut faire de vous. Quel est son plan pour vos vies? Il vous a donné des dons et des talents, il vous a donné des rêves qu'il veut accomplir au travers de vous. Alors, cherchez-le dans votre cœur. Dites-lui oui. Enfin, si vous voulez, mais il me semble que c'est important de lui dire oui aussi. Prions. Est-ce qu'on peut se lever? Je suis désolé, mais je sens vraiment que je voudrais qu'on y mette vraiment notre cœur et notre être. Ça me semble important. Je propose que la première chose qu'on fasse, c'est qu'on étende nos mains, comme l'a fait Denis, comme un geste prophétique, vers la jeune génération. On va commencer par là, pour les bénir, simplement les bénir, et appeler la présence de Dieu sur eux. Seigneur, nous te remercions parce que tu as préparé d'avance une génération qui t'aime et qui veut te servir, qui veut briller pour toi, qui veut brûler d'amour pour toi, qui brûle déjà d'amour pour toi. Tu as mis en eux des dons prophétiques, des dons spirituels déjà. Tu as mis déjà un dépôt de consécration, un désir de consécration. Mais Seigneur, nous reconnaissons que c'est difficile pour eux et nous voulons être là. Nous voulons être là pour les bénir. Nous te demandons de les bénir, Seigneur, de les envahir par ta présence, de venir les visiter là où ils sont, dans leur famille, au collège, au lycée, à l'école. Que tu viennes les saisir, leur parler personnellement, comme tu l'as fait à Samuel. Tu viens leur révéler en rêve ta volonté, tu leur fais connaître ton cœur, qu'ils aient une relation personnelle avec toi tellement forte, une intimité tellement forte avec toi que pour eux c'est évident, pour que eux c'est naturel d'être avec Jésus, c'est leur ami depuis toujours. Je demande vraiment que tu les consacres, Seigneur, par ta parole, consacre-les par ta parole, consacre-les par ta vérité, consacre-les par ta volonté, Seigneur. Nous les bénissons en ton nom, nous reconnaissons Seigneur, ton œuvre au milieu d'eux. Nous accueillons cette œuvre au milieu d'eux. Et Seigneur, nous bénissons cette génération qui viendra après nous. Nous disons qu'elle fera des exploits pour toi, qu'il y aura des miracles qui se feront au travers d'eux, des guérisons, des prophéties. Seigneur, viens, envahis-les maintenant de toi. Qu'ils t'aiment tellement, Seigneur, que tout le reste ne les intéresse pas. Enlève de leur vie tout compromis avec le monde. Qu'ils soient vraiment des lumières d'amour là où tu les envoies. Qu'ils ne se laissent pas corrompre ou souiller, mais qu'au contraire, ils soient pour les autres un canal qui amène Jésus à leurs camarades. Et nous proclamons aussi que leurs camarades vont se convertir par leur témoignage. Que leurs camarades vont venir à Jésus parce qu'ils auront vu Jésus en eux, en elles, en chacun. Nous les bénissons en ton nom. Viens faire une œuvre puissante. Viens faire une œuvre vraie. Nous nous préparons, Seigneur, aussi. Nous voulons aussi nous préparer. Je te demande, Seigneur, pour chacun ici, que nous recevions une conviction que tu es en train de faire quelque chose ou pas. Si c'est faux, ben Seigneur, que ça se dissipe au nom de Jésus. Mais si c'est vrai que tu es en train de préparer une jeune génération, donne à chacun la conviction et donne à chacun sa place. Quelle est ma place, Seigneur ? Quelle est ma place dans l'œuvre que tu es en train de faire ? Moi, je veux en être. Moi, je veux être comme Anne. Moi, je veux être là pour eux. Je peux commencer par prier, mais je sais aussi que j'ai besoin que tu touches mon cœur parce que je ne sais pas forcément faire. Mais j'ai confiance, Seigneur, que l'Esprit Saint vienne. Que l'Esprit Saint vienne au milieu de nous, vienne en moi pour me dire comment je peux les aider, comment je peux être un soutien pour les générations d'après, comment je peux parler, comment je peux encourager, comment je peux transmettre mon expérience. Je vais vous laisser juste quelques minutes pour être avec Dieu. Je ne veux pas être un intermédiaire entre vous et Dieu. Pour que vous ayez, la musique va tourner encore un peu et puis simplement que vous puissiez écouter pendant un temps ce que le Seigneur vous dit à vous. Faites face à face avec Dieu. Si vous recevez quelque chose, je vous encourage simplement à l'accueillir, à dire oui au Seigneur et à vous engager envers le Seigneur, à faire ce qu'il vous montre. Les temps que nous vivons, mes amis, nous voyons ce qui se passe, nous ne sommes pas aveugles. Jésus avait dit, regardez, vous voyez, vous savez voir quand le soleil se lève, la météo qui va faire. On voit la météo de notre nation. On voit ce qui est en train de se passer, les lois iniques contre la vie qui sont en train d'être votées. On voit les épidémies, les attentats, tout monte, la haine monte. Les fractures sont en train de se faire, mais nous disons que nous avons un rôle à jouer. Et nous voulons être en position, en posture. Nous voulons être là, répondre à l'appel du Seigneur pour dire oui. Dieu, tu es en train de faire quelque chose parmi nous et nous voulons accueillir ce que tu fais. Notamment, il n'y aura pas que ça, bien sûr, mais notamment au travers de ces jeunes, tu vas faire des choses et nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts, Seigneur, sinon on sera des obstacles. Moi, je ne veux pas être un obstacle à ce que tu vas faire, Seigneur. Et si c'est quelque chose qui vous a parlé ce matin, je vous invite simplement à encore une fois tendre les mains vers ces jeunes, mais cette fois en disant, voilà, moi je serai là pour vous. Et c'est pas seulement une bénédiction, je laisse quelque chose et puis je repars. C'est je prends une décision vis-à-vis de vous d'être là. Je sais pas ce que ça veut dire, mais vous pouvez compter sur moi pour accueillir, pour bénir qui vous êtes, pour vous accueillir aussi avec vos cœurs d'ado. Mais je crois que Dieu est en train de faire quelque chose au milieu de vous. Si c'est quelque chose que vous avez reçu, tendez les mains vers eux de cette manière-là. Et Saint-Esprit, je te demande vraiment une onction que tu coules maintenant sur eux. Ils sont importants pour toi. Tu les as choisis pour accomplir tes œuvres. C'est vrai, Seigneur, comme nous tous, ils ne se sentent pas qualifiés. Ils se disent, je suis qu'un enfant. Vous n'êtes pas qu'un enfant, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants d'un grand Dieu. Il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Il n'y a que le Saint-Esprit dans toute sa puissance. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est sur vous pour accomplir ses œuvres. Choisissez Jésus. choisissez Jésus. Nous vous bénissons et nous serons là pour vous quand vous en, chaque fois que vous en aurez besoin pour vous accompagner dans votre vie avec Jésus. Que l'Esprit Saint repose sur vous. Et Seigneur, juste pour conclure, une prière pour la réconciliation entre nous, entre les générations. Seigneur, je te demande pardon parce que particulièrement en France, il y a eu des cassures générationnelles terribles qui ont entraîné toute une génération de gens perdus, sans figure paternelle par exemple, avec des mamans qui ont dû lutter pour être à la fois père et mère. Des choses terribles, terribles. Mais nous te demandons, Seigneur, que l'esprit d'Élie, que l'esprit qui était sur Jean-Baptiste, celui qui ramène le cœur des pères à leurs enfants et des enfants à leurs pères, soit sur nous, soit au milieu de nous. Que les jeunes bénissent les anciens, qu'ils les bénissent, qu'ils les aiment. Que les anciens aiment les plus jeunes, qu'ils leur transmettent avec joie, avec plaisir. Qu'ils bénissent aussi les générations d'après. Nous voulons être un lieu où quand on rentre ici, on puisse dire « Ici, les générations sont réconciliées les unes avec les autres. Ici, nous aimons les enfants. Ici, nous aimons les ados. Ici, nous aimons les anciens. Ici, nous aimons chacun, quelle que soit sa génération. Réconcilie-nous les uns avec les autres. » Et je vous lance un défi pratique, parce qu'il faut être pratique. Allez vers quelqu'un qui n'est pas de votre génération. Maintenant, on peut conclure comme ça. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Après, Bernard. Oui, on peut conclure ou oui, il y a autre chose. Ou tu veux dire quelque chose?
Oui, c'est un message prophétique, mais quand je dis mais, c'est pas le mais. Il ne faut pas que ce soit réducteur à notre communauté. Les églises de cette ville ont besoin d'entendre ce message. Ce n'est pas juste pour notre église du Colombier. Et Seigneur, nous te demandons que ce message puisse être ouvert, puisse être apporté aux autres églises de cette ville, quelle que soit leur dénomination, charismatique ou non, on s'en fout. Nous avons besoin dans cette ville des jeunes, des ados, des enfants qui se lèvent pour toi et qui sont encouragés par toi. Et nous te prions pour que ce message, cette parole puisse passer au-delà de nos murs pour toucher les autres églises, les autres communautés de cette ville au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons comment dire, que les murs qui s'érigent entre assemblées, les dénominations qui sont là parfois pour cloisonner les choses, nous ordonnons que ça se brise afin que ce message, mais que la suite aussi, et que les jeunes, les ados puissent se rencontrer, se fortifier, marcher comme une armée pour cette ville, pour cette région, là où tu les places, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, comme un geste prophétique pour terminer, allez vers quelqu'un qui n'est pas de votre génération et bénissez-le. Que ce soit pour nous un signe que nous accueillons cette réconciliation au milieu de nous. Allez-y, on finit comme ça. Bon dimanche à chacun.